Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre cabinet de curiosité. Comment ça va, Sidonie?
Ça va très bien, Thomas. Et vous? Salut à vous, ça les va. Curieux. Allez au programme, l'un des sculpteurs les plus célèbres de France. Chaque année, les talents du cinéma français ont la chance de recevoir l'une de ses œuvres, une fameuse compression de César. Mais qui est-il? Comment les a-t-il imaginées, ces compressions? Vous allez découvrir comment il a vécu et pourquoi dans une décharge,
ben oui,
et comment il a eu le talent de transformer la misère en or.
Et puis on va partager le destin de ces femmes qui font la guerre. 33 000 Françaises dans l'armée aujourd'hui. Quelles sont leurs missions? Qui sont les pionnières? On vous racontera leur histoire au pas de charge, manifestement, grâce à la musique choisie par André Facetta. Allez, tout de suite, le rock, c'est mortel.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Si vous ne voulez pas mourir tranquillement, de vieillesse, dans votre lit, une solution, faites du rock'n'roll. Elvis Presley à Jim Morrison, en passant par Amy Winehouse, John Lennon, Otis Redding et Michael Jackson. Vous venez d'entendre certains d'entre eux. Les plus grandes stars sont morts dans des conditions violentes. C'est ce que l'on vous raconte dans la curiosité avec le journaliste Jean Maresca. Bonsoir Jean Maresca.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et les plus grandes stars sont mortes. Pour faire les liaisons, dans l'ordre, pour démarrer cette émission.
Je me suis dit que c'était une petite coquetterie.
Non, quand même.
Oh, vous êtes
corrigé,
Thomas.
Quand je démarre comme
vous
ça
êtes rock,
en s'abonnant. Alors cette histoire de chanteuse country, Jean Maresca, on n'avait pas prévu d'en parler. Et puis en préparant, juste avant de le passage d'antenne avec Marco, vous me dites quand même, il y a cette histoire de chanteuse country mangée par des coyotes. Ça lui arrive quand et où, ça?
Alors ça lui arrive, c'est une jeune chanteuse qui s'appelle Taylor Mitchell, qui a 19 ans à l'époque et assez prometteuse, d'après ce que l'on dit. Et elle va à un festival folk, elle se rend à un festival folk à Winnipeg, au Canada. Et elle arrive l'après-midi et elle dit aux organisateurs: j'ai entendu dire qu'il y avait une réserve animalière à côté, j'aimerais y faire un tour comme ça pour prendre l'air un peu. Elle y va, elle se fait attaquer, déchiqueter et tuer par trois coyotes.
C'est rarissime, c'est ce genre d'accident?
Ah ben, c'est pas une mort rock'n'roll, c'est une mort assez étonnante, mais sachant que le coyote est un animal craintif de toute façon, qui ne chasse pas en meute, les enquêteurs ont pensé que peut-être elle avait essayé de les nourrir ou de créer un contact avec eux, de s'en approcher, mais ou peut-être qu'il y avait des petits aussi à protéger, on n'a jamais su.
Et du coup, qui ont protégé les petits et attaqué cette chanteuse. Vous compilez en quelque sorte ces morts violentes du rock dans un livre, Dead Rock Stars, qui est publié aux éditions Camion Blanc. On va commencer par le roi, The King, forcément, Elvis Presley. On est le 16 août 77. Dans quelles conditions est-il retrouvé mort?
Il est retrouvé mort dans ses toilettes, effondré par terre, victime vraisemblablement de ce qu'on appelle sa pharmacodépendance, c'est-à-dire le fait qu'il soit accro à tellement de médicaments. Elvis avait une culture, je vais dire judéo-sudiste, donc les drogues c'était pas pour lui.
D'accord.
L'alcool légèrement avec ses copains qu'on appelait la mafia de Memphis à l'époque, ouais. Mais lui était totalement accro aux médicaments.
Donc on en retrouve combien dans son sang de traces de médicaments différents?
Des dizaines, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais enfin on retrouve des dizaines de médicaments, des médicaments pour le speeder, des médicaments pour le faire redescendre quand il était trop speed. Il faut juste ajouter à ça qu'il avait un régime alimentaire assez spécial quand même, à base de sandwichs de beurre de cacahuète et de bananes, ce qui n'arrange pas forcément l'organisme.
Elvis, qui avait déboulé dans la légende du rock 22 ans plus tôt en chantant ça. That's Alright Mama, c'était en 1955, c'était révolutionnaire pour l'époque, Jean Maresca?
Oui, c'était assez révolutionnaire parce que Sam Phillips, qui a donc été le patron de sa première maison de disques, disait: depuis des années, je cherche un blanc qui chante comme les noirs. Et en fin de compte, Elvis a repris un jour ce titre, That's Alright Mama, qui est une vieille chanson d'Arthur Big Boy Crudup, qui est sortie d'un bluesman noir, donc qui est sortie en 46, et il l'a ressorti à sa manière, donc ce blanc qui chantait comme les noirs.
Ce blanc qui chantait comme les noirs dans les années 70, il a grossi énormément, vous nous l'avez dit, il est malade depuis longtemps. De quoi souffre-t-il en fait ?
Oh, il a
plein de pathologies.
Il a plusieurs pathologies, il souffre, bon, c'est pas très élégant à dire, il souffre de constipation chronique.
Mais on nous avait dit ici qu'il était mort de ça en fait, qu'on l'avait retrouvé sur ses toilettes, c'est pas très élégant à raconter, mais
on l'a retrouvé dans ses toilettes, sur ses toilettes.
On n'en est pas sûr.
Ouais. On l'a retrouvé dans ses toilettes, effectivement. Il souffrait, donc, comme je l'ai dit, de constipation chronique. Il avait aussi de gros problèmes d'articulation. Il avait des problèmes de foie, bien évidemment, vu son régime alimentaire.
Il ne devait pas être seul. Il devait avoir des médecins, Elvis Presley, j'imagine, qui le suivaient, qui l'entouraient, qui le protégeaient.
Ben, oui, bien sûr. Il avait une corde de médecins autour de lui, mais des médecins qui ne se parlaient pas forcément entre eux. Donc, il y en avait un qui prescrivait telle ordonnance, un autre telle ordonnance, sans même savoir si les médicaments prescrits par l'un et par l'autre pouvaient, à un moment ou à un autre, interagir et créer plus de mal qu'il n'était supposé en faire.
Ça fait penser évidemment à la mort de Michael Jackson. On est un peu dans la même configuration.
Exactement. On est dans la même configuration avec des médecins autour qui, bien évidemment, se pressent autour de la star parce qu'il s'est dit que le dernier médecin de Michael Jackson était payé quand même 150 000 $ par mois pour le soigner. Par mois, oui. 150 000 $. Donc à ce prix-là, on donne n'importe quel médicament.
On offre une jolie mort, en tout cas.
Voilà.
En tout cas, ça devient le patient qui choisit ses médicaments, d'une certaine façon.
Bien sûr, complètement. Ouais. Complètement.
Et c'est comme ça que Michael Jackson, lui aussi, est mort d'un excès de médicaments. Le rock, vous l'avez compris, c'est mortel. Vous voulez connaître le point commun entre Kurt Cobain, John Lennon et Marvin Gaye ? Restez avec nous sur RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Vous écoutez RTL.
Première radio de France. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Janis Joplin, Bob Marley, Jimi Hendrix ou encore Bon Scott d'AC/DC. Ces artistes ont connu des morts violentes et ce sont ces morts rock'n'roll que l'on raconte ce soir dans La Curiosité avec le journaliste Jean Maresca. On va raconter l'histoire de trois légendes de la musique. Il y a John Lennon, Kurt Cobain et Marvin Gaye réunis dans la mort. Pourquoi ? C'est quoi leur point commun ?
Oh, le point commun, c'est que c'était des artistes extrêmement populaires. Leurs morts sont... ils ont été, pour Marvin Gaye...
Ils sont morts par balle, en fait.
Ils ont été révolverisés, on peut dire.
On peut dire ça comme ça.
Mais pour eux, par des... Comment je peux dire mais de manière différente. Marvin Gaye a été tué par son père.
Alors, on va prendre le temps de raconter. On commence par Marvin Gaye.
Allez. Marvin Gaye, et on écoute son tube planétaire. Sexual Healing, c'est toujours compliqué de parler par-dessus un tel tube.
Vous pouvez vous taire, hein.
Ça s'appelle un tacle en direct. Mais oui, mais on va plus rien, on a plus avoir de temps pour écouter Jean Maresca, notre invité qui nous raconte ses morts du violentes dans le rock'n'roll. Allez, on raconte l'histoire de Marvin Gaye. Il commence par quoi ? Par la batterie, c'est ça ?
Alors Marvin Gaye commence comme batteur, effectivement, au service de la Tamla Motown, la grande maison de disques. On se rend compte rapidement qu'il est plus chanteur que batteur. Il commence à enregistrer quelques singles. Et à un moment, Berry Gordy, qui est le patron de la Tamla, lui adjoint une jolie jeune femme noire comme lui, qui s'appelle Tammy Terrell. Et ils forment un duo iconique, on va dire, pendant des années. C'est presque les petits fiancés noirs de l'Amérique.
Dans les années 60, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et dans ce duo, Marvin Gaye et Tammy Terrell, c'est elle qui part en premier. De quelle manière meurt-elle ?
Elle est morte sur scène. En fin de compte, elle avait un cancer du cerveau et elle s'est effondrée sur scène un jour et ils l'ont ramenée. Elle a fini sa vie. Elle pesait 42 kilos dans une chaise roulante. C'était la fin. Mmh. Et Marvin Gaye a été terriblement meurtri par le décès de Tammy Terrell. Et on dit que de toute façon, toute la suite de tout ce qu'il a écrit derrière a toujours été marquée de ce
deuil,
de ce décès.
fait, oui.
Jean Maresca, vous avez commencé à raconter la mort de Marvin Gaye, effectivement, tué par son père. C'est quoi? C'est une bagarre familiale sordide. Ça se passe le 1er avril 84.
Ouais, on a longtemps raconté que c'est parce que le père de Marvin Gaye était pasteur. Mmh. On a longtemps raconté que, en fin de compte, le père avait reproché à Marvin Gaye sa vie dissolue, sa vie avec les femmes, avec les drogues et les choses comme ça. En fin de compte, c'est beaucoup plus sordide que ça. C'est une histoire de gros sous, c'est l'histoire d'assurance, c'est un truc de papier, de paperasse mal réglé.
Et que se passe-t-il ce soir-là, alors?
Le père et le fils s'engueulent, on peut le dire, en viennent aux mains. La mère qui est là présente, la mère de Marvin, la femme du pasteur, les sépare. Le père sort, revient avec un pistolet et met une balle dans le cœur de son fils et une deuxième dans la tête pour être sûr de ne pas avoir loupé son coup. Le plus étonnant, c'est quand même que le pistolet que le père avait, le Smith & Wesson, c'était Marvin qui lui avait offert, parce que le père s'était fait cambrioler peu de temps auparavant, et le fils lui avait offert, Marvin Gaye avait offert à son père un pistolet en lui disant, bah écoute, si jamais t'as des cambrioleurs qui viennent chez toi, voilà, je te donne une arme pour te défendre.
C'est vrai qu'il était parano, Marvin Gaye?
Totalement.
Il portait même un pare-balles...
Un gilet pare-balles. Pour les derniers temps où il se produisait sur scène, il portait un gilet pare-balles sous ses costumes de scène.
Quelle ironie de finir tué par son propre père, par le pistolet qui lui a offert.
Oui, il n'avait pas le gilet pare-balles ce jour-là. Oui,
un calibre 38, c'est aussi ce que Mark David Chapman cache dans sa poche le 8 décembre 1980 à New York. Qu'est-ce qu'il a dans l'autre poche ce soir-là?
Il a un bouquin qui est un livre qui a enchanté toute l'Amérique, tous les jeunes d'Amérique de cette époque. C'est l'Attrape-cœur de Salinger. Et c'est son espèce de livre de chevet. Et il a donc dans une poche le fameux pistolet, dans l'autre le bouquin. Et il attend devant le Dakota, devant l'immeuble où réside John Lennon, et il le tue.
Puisque Chapman, c'est le meurtrier de John Lennon. Quelques heures plus tôt, il l'avait croisé.
Il lui demande un autographe. Il s'était déjà pointé devant l'entrée de l'immeuble avec bien évidemment toujours des fans, et il avait amené un album Double Fantasy, et il avait donc demandé à John de lui signer un autographe, ce que John avait fait très gentiment.
Et pourtant Mark David Chapman revient dans la soirée pour l'abattre. Vous racontez la scène dans votre livre Dead Rock Stars, qui est publié au Camion Blanc. Comment Chapman va-t-il exactement tuer John Lennon? Il va l'abattre?
Il attend que Lennon sorte de la limousine qui le dépose devant l'entrée de l'immeuble. Les fans se précipitent dans le petit escalier d'entrée de l'entrée de l'immeuble. Il y a des fans qui se précipitent, il essuie, il bouscule tout le monde, il se met en position de tireur parce qu'il avait une formation de tireur, et il lui tire 5 balles.
Quels sont les derniers mots de John Lennon?
I'm shot.
J'ai été descendu.
John Lennon. Et la première parole de Chapman, quand le flic l'arrête, le Chapman dit au flic, dit, j'ai tué John Lennon.
John Lennon qui chantait la paix. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. J'ose plus parler sur les chansons, moi.
Vous avez raison, vous n'avez pas demandé l'autorisation. Bon, Mark David Chapman est toujours en prison, 25 ans plus tard.
Oui, et il a, depuis le début des années 2000, il a demandé, comme la loi le lui permet, à être libéré. Évidemment. Ce que les autorités refusent systématiquement, parce que les autorités se disent que de toute façon, à peine il aura mis un pied dehors, il sera tué à son tour.
Pour Kurt Cobain, lui aussi tué par balle, l'enquête sera beaucoup plus compliquée officiellement. Il s'est suicidé, une chose est sûre, il entre ce 8 avril 1994 dans le club des 27. Le club des 27. A tout de suite, des curieux.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Jusqu'à 22h. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Keith Moon, le batteur des Who, Brian Jones, Alan Wilson, Del Shannon, eux aussi sont morts de morts violentes. Sex and drugs and rock and roll à la liste. Il faudrait rajouter les armes, les médocs, l'alcool, les accidents en tout genre. L'histoire de la musique prouve que c'est rare de mourir vieux et dans son lit quand on a été une légende du rock. Jean-Marie, est-ce qu'il y a des stats, est-ce qu'il y a des statistiques sur la façon dont les rockers passent l'arme à gauche?
Oui, il y a eu des statistiques qui ont été faites par des chercheurs sérieux qui tendent à prouver quand même qu'un musicien de rock a 3 ou 4 fois plus de chances de mourir jeune qu'un individu lambda, on va dire.
Il faut dire qu'ils mettent toutes leurs chances de leur côté parfois.
Ils font peut-être pas tout ce qu'ils font.
Voilà. Ça fait partie de la vie. Dans la légende du rock et des morts jeunes, il y a bien sûr ce club des 27 dont je parlais tout à l'heure comme 27 ans. D'où vient cette appellation ?
En fin de compte, c'est une appellation qui a surgi au moment de la mort de Kurt Cobain, où des gens se sont rendus compte que Kurt Cobain est mort à 27 ans, mais avant lui, Brian Jones était mort à l'âge de 27 ans, Jim Morrison était mort à l'âge de 27 ans, Janis Joplin, Jimi Hendrix, tout ça. Donc il y a eu cette idée de faire ce club des 27, en fin de compte.
L'âge maudit.
On y a même rajouté un bluesman américain noir, Robert Johnson. On ne sait pas trop s'il en avait 28 ou 27 au moment de sa mort, mais comme il est mort empoisonné par un patron de bar parce que Johnson tournait autour de sa femme, on a dit, bah, après tout, allez, on va le mettre dans le club des 27.
Ça entre dans la légende, en tout cas.
Et la dernière, enfin, on l'espère, à y être entrée, évidemment, c'est Amy Winehouse. Cette chanson, Jean Mariska, évidemment, elle est autobiographique.
Oui, totalement.
Elle a passé combien de temps en cure de désintox
plus de la moitié de sa vie artistique, de toute façon, ça c'est sûr. C'est sûr.
Et elle se soignait à cette époque, en juillet 2011.
Mais
elle est morte.
Pour beaucoup de gens qui sont dépendants, qui sont addicts, que ce soit à l'alcool ou aux drogues ou tout ça, c'est un phénomène de yo-yo permanent entre je vais sombrer, je fais une cure, je m'en ressors. Au bout d'un moment, chic, tout va bien, je peux un petit peu recommencer à goûter au poison, aux choses interdites, et puis je replonge, et puis tous les gens qui sont morts de morts violentes ou de tous ces abus de drogue ou d'alcool, tout ça, ont passé leur vie à faire le yo-yo entre je suis au plus bas et je me soigne et je redescends au plus bas.
Et là, c'était l'alcool, en l'occurrence. Elle meurt d'un excès d'alcool,
oui,
c'est ça ?
Oui, oui, elle, oui.
Et
vraiment.
Puis c'est comme tous ces artistes qui sont morts à 27 ans, c'est de jeunes artistes absolument précoces, ils ont une maturité incroyable, ils tombent dans ce monde du succès, de la musique et des drogues très tôt.
Ils ont un côté, beaucoup sont bipolaires. C'est-à-dire que par un certain aspect, ils ont déjà, comme vous le dites, une maturité. Et puis, ils sont encore dans un rêve d'enfant où ils pensent que de toute façon, ils peuvent tout faire, le monde leur appartient. Donc, rien ne leur est interdit.
Le premier album d'Amy Winehouse, c'est un coup de tonnerre. Il bluffe tout le monde.
Oui. Oui, oui, vraiment, ça a été une surprise. Le grand public la connaissait peu. Elle avait 20 ans quand son premier album est sorti. Et ça a été une surprise totale. C'est après que les journaux ont commencé à s'emparer de sa vie et à en faire cette espèce de personnage surprenant et désespérant parfois. Parce que quel gâchis de talent.
On en avait parlé, on avait fait la biographie d'Amy Winehouse à l'antenne de la Curiosité. On avait raconté aussi qu'elle était... Elle n'était pas très entourée, son père lui mettait la pression, la maison de 10 lui mettait la pression, son petit copain n'était pas trop là. C'est l'histoire d'une fille seule, en fait, qui a beaucoup de succès.
Les maisons de disques mettent toujours la pression.
Vous y avez travaillé.
Oui, j'ai pas mal donné. Il faut avoir, je crois, l'envergure d'un Cabrel, pour prendre un exemple français, pour se dire je délivre un album tous les 6 ou 7 ans, et c'est comme ça, c'est moi qui décide.
Débrouillez-vous avec ça.
Voilà.
Je le disais tout à l'heure, Kurt Cobain faisait lui aussi partie de ce club des 20. Et vous nous expliquez que l'appellation en quelque sorte a été ressortie des tiroirs à l'occasion de sa mort.
Oui.
Comment il est mort? Vous pouvez nous le rappeler, Jean Mariska?
On l'a trouvé mort d'un coup de fusil. Il se serait apparemment tiré un coup de fusil. Alors après, il y a toujours les théories complotistes qui arrivent. On a évoqué l'idée que c'était son épouse Donc,
Courtney Love.
Oui, Courtney Love, c'est ça. Mm. Que c'était son épouse Courtney Love qui l'aurait plus ou moins fait assassiner. Elle a donc mis des détectives sur l'affaire.
Parce qu'ils ne s'entendaient plus, c'est ça ?
Puis on, c'est, sont quand même des personnalités assez arrivées à s'entendre.
Volcaniques, on pourrait dire ça.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en fin de compte, alors il y a des journalistes qui ont dit, de toute façon, alors il y a des enquêtes qui ont été faites, l'impossibilité de. Puisqu'il avait pris une forte dose d'héroïne avant de trouver la mort, que l'impossibilité de tirer, d'être cohérent dans ses gestes.
Ah, il n'aurait pas eu assez de force ou de cohérence.
Pas assez de force pour appuyer sur la gâchette du fusil. Alors, tout ça reste, c'est un peu flou.
Trop drogué pour mourir, oui.
Ce qui est sûr, néanmoins, c'est qu'il a laissé une lettre dont même les experts, des fois, discutent de l'authenticité.
Kurt Cobain, fondateur du groupe Nirvana, qui chantait ça en 1989.
Comme As You Are, extrait du deuxième album du groupe Nirvana. Lui aussi faisait partie du club des 27. Jim Morrison, le chanteur des Doors, est mort à Paris dans des conditions rocambolesques. On vous raconte cette nuit du 2 juillet 1971 sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Vous écoutez RTL. Jusqu'à 22h. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Whitney Houston, John Belushi des Blues Brothers, Buddy Holly ou encore John Bonham des Led Zeppelin, ces artistes ont vécu des morts assez terribles, des dead rock stars. Ce sont ces morts violentes du rock'n'roll que l'on découvre dans la curiosité grâce à notre invité, le journaliste Jean Maresca. C'est aussi le titre de votre livre publié aux éditions Camion Blanc. On va raconter la mort de Jim Morrison, le leader des Doors. Mais d'abord, il faut raconter qui il était et qui était, par exemple, son père. C'était un militaire.
C'est un militaire, oui. Il est né au sein d'une famille extrêmement stricte. Ce qui explique peut-être, en fin de compte, ce sentiment de révolte qui l'a habité assez jeune, qui l'a poussé à s'éloigner totalement de sa famille pour monter ce fameux groupe, les Doors.
Jim Morrison, qui était à la fois génial et insupportable, c'est ça ?
Oui, mais comme je disais tout à l'heure, ils étaient tous plus ou moins bipolaires. Ils étaient tous entre je suis une star, un dieu vivant, et puis je suis un gamin à côté.
Mais ils n'avaient pas tous un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. Il avait combien, Jim Morrison ?
Il avait 149, je crois.
Ah oui, c'est beau quand même.
Ah oui,
c'est beaucoup.
Oui, c'est un très très haut.
Et
ça peut faire souffrir.
Oui. Ah oui, certainement. Bah, il a souffert.
Ouais, Jim Morrison, on va raconter son histoire et sa mort, évidemment, avec vous, Jean Maresca. C'est en 1965 qu'il fonde les Doors avec Ray Manzarek et John Densmore, les Doors qui savent électriser un concert.
Et Robbie Krieger.
Jean Maresca, qui est une bible du rock, m'a repris parce que j'ai oublié un des membres des Doors.
Oui, le guitariste Robbie Krieger.
Oui, c'est important.
Tout.
C'est important quand même. Light My Fire, c'est l'un des plus grands succès des Doors. Jim Morrison, il provoque l'Amérique des années 60, Jean Maresca. Vous le racontez dans votre livre Dead Rock Star. Il y a ce concert du 1er mars 69 à Miami. Vous pouvez nous raconter ça ?
Ah bah, il a cette capacité à remuer les foules, surtout les foules féminines d'ailleurs, et il pousse la provocation à un point tel que lors de ce concert, il dévoile brièvement son sexe sur scène, ce qui bien évidemment aux USA est à quelque chose d'épouvantable.
Surtout en 69. Hein.
Oui, donc il sera arrêté à l'issue du concert. Enfin, la police intervient, et il sera arrêté, condamné pour exhibition publique, des choses comme ça. Quoi. Et il incite, de toute façon, tout au long de ses concerts, il incite à la révolution. Il dit, dans plusieurs de ses concerts, il dit, est-ce que vous êtes prêts pour la révolution ? L'audience crie oui et il fait maintenant.
Jim Morrison, un révolutionnaire, un sex symbole. Pourtant, deux ans plus tard, au printemps 1971, après avoir, je dis deux ans plus tard, mais c'est après avoir été arrêté à Miami. Quand il débarque à Paris, il est absolument méconnaissable.
Oui, bah, il a grossi, ça c'est l'alcool vraisemblablement. Il s'est laissé pousser la barbe, il s'est fait une espèce de tête de poète maudit, ce qui lui permet de passer relativement tranquillement dans les rues de Paris. Et il a son quartier général, Rock'n'Roll Circus, qui est le club le plus in, on va dire, de l'époque.
Il se trouve où ce bar des années, ce club des années 70 à Paris?
Il est situé...
Dans quel quartier, pardon,
il est rue de Seine, à Saint-Germain.
D'accord.
Voilà. Alors, on est le 2 juillet 1971, Jean Maresca, on imagine Jim Morrison qui est au bar... Avec deux hommes, c'est ça?
Il est un habitué. Je me suis appuyé totalement sur le livre de mon ami Sam Bernett, qui a d'ailleurs travaillé ici à RTL pendant des années, qui était le patron du Rock'n'Roll Circus et qui a écrit un bouquin dans lequel il relate effectivement comment s'est passée la soirée. En gros, il a vu Jim Morrison boire quelques verres avec deux types à l'allure un peu louche au bar. Et à un moment, Jim Morrison est descendu aux toilettes, et puis personne ne le voit revenir. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on commence à s'inquiéter. Sam Bernett a fait enfoncer la porte des toilettes et ils ont trouvé Jim Morrison effondré par terre.
Les deux hommes, c'était les deux hommes, les dealers,
Les deux hommes. On le suppose. Les deux hommes à ce moment-là, bien évidemment, panique dans le club, panique chez le personnel du club, bien sûr. Et les deux hommes ont dit, vous occupez pas, on s'occupe de tout, on le prend en charge.
Donc ils ressortent avec Jim Morrison sous le bras, si j'ose dire.
Il y a une sortie du Rock'n'Roll Circus qui donnait dans la rue Mazarine derrière. Et ils l'ont sorti discrètement par une porte de service. Ils l'ont ramené chez lui. Là, ils l'ont, peut-être dans l'espoir de le réveiller, ils l'ont trempé dans une baignoire d'eau froide. Et voyant qu'il ne se réveillait pas, à ce moment-là, ils ont appelé la police a été appelée pour venir. C'est pour ça qu'on dit qu'il est mort dans son appartement du 4e, alors qu'il était déjà décédé depuis peut-être deux heures dans les toilettes du Rock'n'Roll Circus.
Que va conclure la police parisienne, en tout cas le médecin légiste de sa mort? De quoi est-il mort, Jim Morrison?
Arrêt cardiaque, tout simplement.
Ouais. Oui, quelque chose dans ce cas-là.
Ce que vous racontez dans votre livre, c'est que le compte-rendu des médecins est assez laconique, on va dire.
Oui, il y a juste un truc que je voudrais préciser, c'est qu'en fin de compte, en anglais, le mot « drug », ça signifie aussi bien une drogue qu'un médicament,
bien sûr.
Puisqu'on dit un drugstore, où on va acheter l'aspirine. Donc les rapports de médecins légistes peuvent parler de drug overdose qui peut être une overdose de médicaments ou de drug overdose qui peut être une overdose d'héroïne, de cocaïne, choses comme ça. Donc ça reste toujours un peu flou tout ça.
Merci beaucoup Jean Maresca. Il y a beaucoup d'autres morts violentes de rockstar à découvrir dans votre livre, celle de Buddy Holly notamment dans un accident d'avion. Tout ceci est à lire dans Dead Rockstar, les morts violentes du rock'n'roll. C'est publié aux éditions Camion Blanc. Merci beaucoup, Jean.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.